Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Lors d'une agression d'un pays étranger et expansionniste, faut-il tendre l'autre joue et laisser faire ? En d'autres termes, y a-t-il des guerres justes ou non ? Alors, pour répondre à ces questions et à beaucoup d'autres, Frédéric Rognon, professeur de philosophie et d'éthique sociale à la faculté de théologie de Strasbourg, a accepté notre invitation et je l'en remercie. Bonjour à tous et bonjour Frédéric.
Bonjour.
Alors, vous êtes pasteur et votre réflexion se nourrit de la Bible, enfin je suppose. On connaît tous l'histoire de tendre la joue, tendre l'autre joue de Jésus. Et on pourra en parler tout à l'heure. Mais dans l'Ancien Testament, il me semble que la guerre est un des moyens, peut-être le moyen essentiel, je ne sais pas, vous nous le direz, pour le peuple de Dieu de régler ses problèmes de territoire. Pire encore, la guerre est souvent vue comme un commandement de Dieu. Enfin, en tout cas, c'est ma lecture, mais vous allez peut-être corriger. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord réagir sur ce que je viens de dire et puis nous dire à quel moment on voit apparaître le pacifisme dans l'histoire d'Israël, si on le voit apparaître ?
Alors, c'est vrai, vous avez raison, l'Ancien Testament parle de guerre, beaucoup de guerres et parfois de massacres assez difficilement supportables à lire, tout simplement parce que la Bible parle de nos réalités humaines et que les êtres humains se font la guerre depuis la nuit des temps, et qu'il est donc un texte tout à fait réaliste. Après, de dire que c'est la volonté de Dieu, ça peut être discuté. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les récits guerriers, les récits militaires ne manquent pas. Mais dès l'Ancien Testament et des textes très anciens, nous avons aussi des réactions qu'on pourrait qualifier de pacifistes, en tout cas qui prônent la paix. Nous avons des textes prophétiques hein, qui annoncent un temps où les armes seront brisées et où on n'apprendra plus la guerre hein, chez Ésaïe, chez Osée. Nous avons aussi des textes peut-être moins connus. Je prends l'exemple du deuxième livre des Chroniques. C'est pas forcément notre livre de chevet, des Chroniques, mais au chapitre 28 du deuxième livre des Chroniques, on a un texte tout à fait étonnant. J'invite nos auditeurs à le lire à tête reposée, où après avoir fait la guerre, Israël voit un prophète lui dire de relâcher les prisonniers qu'ils se sont faits et de les nourrir et de les vêtir et de les libérer et de les bénir. Et donc un texte qui, au milieu de la guerre, eh bien, montre de la part d'un prophète qui lui parle de la part de Dieu clairement, eh bien que la paix est supérieure à la guerre et qu'il s'agit donc de faire en quelque sorte ce que Jésus invitera à faire dans certaines paraboles, hein, de nourrir ceux qui ont faim, de vêtir ceux qui sont nus, parce que c'est à lui qu'on le fait. Eh bien, on trouve ça déjà dans le chapitre 28 du deuxième livre des Chroniques, et les soldats font ce que le prophète leur demande. Donc, on a comme ça des pépites au milieu de l'Ancien Testament qui peuvent déjà annoncer un idéal de paix au milieu de récits guerriers nombreux.
Donc, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 28, à peu près dans ce moment-là. Alors, j'invite les auditeurs à lire ce... Et puis, vous avez fait état de ce qu'on connaît, Ésaïe, les vers qu'on connaît, hein, le loup sera à côté de l'agneau, enfin, je cite de mémoire, mais...
Et l'on n'apprendra plus la guerre hein, chez Ésaïe ou chez Michée aussi, hein. Donc, ce sont des prophéties, bien sûr, hein, mais qui montrent un idéal de paix et non pas une justification de la guerre, hein, dès ces textes-là.
Et c'est à peu près au même moment, Ésaïe, les chroniques, enfin, c'est rédigé à peu près, en gros, il y en a qui apparaissent avant, c'est quel
Alors, bon, oui, c'est à peu près, donc Ésaïe, c'est avant l'exil, donc c'est quand même le premier Ésaïe, puisqu'il y a plusieurs livres au sein même du livre d'Ésaïe, il y a plusieurs périodes, hein, donc il y a le deuxième Ésaïe qui est pendant l'exil, mais le premier Ésaïe est avant l'exil, donc on est quand même assez tôt. Donc, on a des textes contemporains, des textes qui racontent la guerre et qui semblent la justifier. Mais on a aussi dans les livres des psaumes des textes qui sont absolument terribles ou même le psalmiste souhaite dans sa prière à Dieu, dans son psaume, souhaite écraser les têtes des enfants de ses ennemis. Là, moi, il me semble qu'on peut lire ces textes non pas forcément comme des justifications de la guerre, mais au contraire comme une manière de, à travers le psaume, à travers la prière, il faut bien voir quel est le genre littéraire qui est là proposé, c'est de, en quelque sorte, remettre à Dieu toute sa hargne, toute sa haine, toute sa volonté de tuer, toute sa volonté de vengeance, de manière à s'en libérer. Hein. On peut tout à fait lire ces textes comme étant une sorte de catharsis.
Psychanalyse.
On pourrait dire ça avant la lettre, oui. En tout cas, une purification de toutes ces... de tous ces sentiments de haine de l'ennemi, en les remettant à Dieu, il faut pas les prendre comme au premier degré, mais en les remettant à Dieu, eh bien, en quelque sorte, on peut s'en libérer. Et donc, ces psaumes peuvent très bien être lus, non pas comme une justification de la haine de l'ennemi, mais au contraire, comme une invitation à s'en dégager.
Alors ensuite, vous parlez donc de Jésus. Est-ce que Jésus en a beaucoup parlé de la guerre dans les évangiles? Est-ce que c'est un thème qui revient ou de la violence? Est-ce qu'on peut associer les deux? Ou est-ce que c'est pas tellement présent dans les récits des évangiles?
Alors, moins dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, hein, la guerre est moins présente, mais la violence est présente, et quand même, vous avez ce texte que vous avez cité tout à l'heure dans le Sermon sur la montagne, hein, Matthieu 5, tendre l'autre joue, mais aussi aimer ses ennemis. Alors, il y a tout un débat, vous avez entendu que vous devez aimer votre prochain, mais haïr votre ennemi. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Matthieu 5. Il y a tout un débat d'interprétation pour savoir s'il s'agit là de l'ennemi militaire, c'est-à-dire de l'ennemi national, ou de l'ennemi personnel. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une prise de position pacifiste, ou bien il s'agit d'aimer ses voisins, ses frères et sœurs dans l'Église, sa famille? Parce qu'il y a deux termes en hébreu, ektros et polémios, qui peuvent vouloir dire l'un l'ennemi personnel, l'autre l'ennemi national, pardon. Et là, il s'agit de l'ennemi personnel. Simplement, dans le Nouveau Testament, il est toujours question d'ektros, y compris lorsqu'il est question de guerre. Et donc, on peut quand même voir ici un amour de l'ennemi prôné par Jésus aussi pour l'ennemi national et pas seulement pour l'ennemi personnel. En tout cas, c'est un débat. Hein. Il y a toute une discussion entre exégètes pour savoir de quel ennemi il est question lorsque Jésus nous demande d'aimer nos ennemis. Il y a un autre texte plus précis au sujet de la guerre, c'est lorsque en Luc 3, 14, Jean-Baptiste baptise des militaires. Et qu'est-ce qu'il leur demande à ces militaires? Il leur demande non pas de quitter l'armée, et donc on pourrait dire, ben voilà, c'est pas un texte pacifiste, puisqu'il n'est pas question de condamner le métier des armes. Il leur demande de ne pas faire de fraude ni d'extorsion et de se contenter de leur solde. Là aussi, il y a tout un débat entre spécialistes. Certains disent, ben voilà, c'est une sorte de justification de la guerre ou de l'art militaire. D'autres plus pacifistes, d'autres exégètes plus pacifistes vont dire c'est pas parce qu'ils ne condamnent pas la guerre qu'ils la justifient. Et puis, certains vont jusqu'à dire, mais regardez le terme qui est employé, qu'on a traduit par extorsion ou fraude, il peut vouloir dire violence en général. Et donc, si Jean-Baptiste demande aux soldats de ne pas commettre de violence, c'est que implicitement, il leur demande de ne pas faire la guerre. Voilà, donc vous voyez le genre de discussion. Oui. Il n'y a pas de consensus là-dessus. Hein. Il y a discussion entre exégètes pour savoir est-ce que la guerre est condamnée ou est-ce qu'elle est justifiée, y compris dans le Nouveau Testament.
D'accord. Et ensuite, dans l'Église chrétienne, donc je suppose que ce problème s'est posé, posé depuis toujours. Oui. Mais la question qui me titille un peu, c'est est-ce qu'on a fait la différence entre le martyr imposé donc par les autorités contre les chrétiens et la guerre? Parce que on va parler de justifier la révolte ou des choses comme ça. Et là, ça me semble être plus le martyr. Est-ce qu'il y a une distinction ou est-ce que c'est globalisé? Et puis, quels sont les grands théoriciens? Bon, je suppose saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, qui ont parlé de la violence. Alors, j'ai peut-être posé beaucoup de questions. Là, ça fait peut-être un peu compliqué.
Alors, il faut effectivement distinguer les périodes. Les trois premiers siècles du christianisme, donc jusqu'au début du IVe siècle, les chrétiens et les responsables de l'Église persécutée, les évêques, les théologiens, vont globalement considérer qu'il est impossible et interdit pour un chrétien de porter les armes, et donc vont avoir une lecture assez radical et assez même littéral du sermon sur la montagne. Si Jésus nous a demandé d'aimer nos ennemis, eh bien il faut le pratiquer au pied de la lettre. Et là, on a donc des décisions d'Église, des textes d'Église qui interdisent aux chrétiens de porter les armes. C'est-à-dire ceux qui sont militaires et qui se convertissent doivent renoncer à leur métier, et ceux qui sont baptisés et qui décident de devenir militaires sont excommuniés. Donc vraiment des décisions extrêmement radicales, extrêmement fermes pendant les trois premiers siècles. Et donc, comme vous parlez de martyrs, alors bien sûr il y a des chrétiens qui sont martyrisés, qui sont persécutés parce qu'ils sont chrétiens, mais on a des cas aussi de chrétiens qui sont mis à mort parce qu'ils refusent de porter les armes. Et donc, on voit bien que pendant trois siècles, le christianisme, dans sa globalité, est pacifiste. Et le tournant arrive au début du IVe siècle, avec la conversion de Constantin et avec l'entrée donc de l'Empire romain dans le christianisme, dans ce qu'on va appeler la chrétienté. Hein, le christianisme va devenir religion d'État. Et là, très rapidement, puisque en 314, donc l'année d'après la conversion de Constantin, le concile d'Arles inverse complètement la perspective. Au concile d'Arles, on affirme et on prend la décision d'excommunier les chrétiens qui refusent de porter les armes. C'est-à-dire on est passé d'une décision d'excommunication de ceux qui portaient les armes à l'inverse. Et donc on a clairement, au début du IVe siècle, un retournement complet à partir du moment où le christianisme devient religion d'État et où donc eh bien, l'État est un État chrétien.
Et on le justifie théologiquement
Oui, bien sûr, parce qu'on relit les textes de façon différente. Et comme je disais tout à l'heure, l'ennemi de Matthieu 5 n'est plus l'ennemi national, mais seulement l'ennemi personnel. Ce que fait Jean-Baptiste en Luc 3, eh bien, c'est de justifier en quelque sorte le métier des armes, puisqu'il ne le condamne pas, puisqu'il baptise des militaires sans leur demander de renoncer à leur métier. Et donc, on relit ces textes avec une nouvelle lecture, une nouvelle exégèse. Et donc, saint Augustin d'abord, et puis saint Thomas d'Aquin bien plus tard, mais d'abord saint Augustin va forger ce concept de guerre juste, au début du 5e siècle. Alors, il n'a pas...
Juste parce qu'il y a la vérité pour lui, et donc il faut défendre la vérité. C'est, C'est au nom de la vérité qu'on fait la guerre, finalement.
C'est au nom de la vérité, mais dans certaines limites quand même. C'est-à-dire dire qu'il y a des guerres justes, ça signifie que toutes les guerres ne sont pas licites. C'est quand même une manière de baliser la justification de la guerre. Alors, il faut préciser que Saint Augustin n'a pas inventé le concept de guerre juste. Il existait depuis Cicéron, donc depuis le premier siècle avant notre ère, et donc dans un contexte païen. Simplement, il christianise ce concept et il lui donne des critères précis, trois critères pour qu'une guerre puisse être considérée comme juste. Il faut d'une part que l'intention de la guerre soit juste, c'est-à-dire que la guerre n'est pas pour objectif la conquête, mais uniquement le rétablissement de la paix ou la défense. La défense, quand on est attaqué, on a le droit de faire la guerre pour se défendre. Donc l'intention doit être juste. Les moyens utilisés au cours de la guerre doivent être aussi justes, c'est-à-dire qu'on ne doit pas s'en prendre aux civils. La guerre ne doit concerner que les militaires. Il est interdit de piller, il est interdit de violer les femmes. Donc les moyens doivent être justes. Et puis, le troisième critère, c'est que l'initiative de la guerre doit être le fait de l'autorité légitime et non pas d'un groupe privé ou d'une population ou d'un peuple. Ça doit toujours être le souverain. Donc ça, ce sont les trois critères qui permettent donc de réduire, parmi toutes les guerres, de réduire celles qui sont justes à un petit nombre. Ça, c'est une intention, on ne pourrait pas dire pacifiste, mais en tout cas de régulation de la guerre pour que les chrétiens ne participent qu'aux guerres qui sont justes, c'est-à-dire celles qui honorent les trois critères et qui les honorent simultanément. Il ne s'agit pas qu'un seul critère soit honoré, il faut que les trois soient honorés ensemble.
D'accord. Et alors après, donc on arrive aux réformateurs. On connaît la position de Luther. Luther justifie le souverain. Luther propose même, on connaît sa réaction par rapport à la guerre des paysans, où il justifie la répression. Il propose même de tuer les rabbins dans ses délires anti-juifs. On est très loin de la non-violence chez Luther.
Oui, alors entre saint Augustin et Luther, il faut encore mentionner saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle qui va s'inscrire dans la tradition de la guerre juste de saint Augustin. Il va la systématiser, mais il va ajouter un élément que Luther ensuite va abolir, c'est pour ça que je le mentionne, c'est qu'il va établir une double éthique, l'éthique pour les clercs et l'éthique pour les laïcs. Donc, les laïcs doivent faire la guerre quand elle est juste, alors que les clercs, les moines, les prêtres sont dispensés de la guerre parce qu'ils doivent se consacrer à la contemplation. Et ce que Luther va apporter, donc Luther aussi s'inscrit tout à fait dans la ligne de la guerre juste, simplement il va abolir cette double morale en disant il n'y a pas de raison que les clercs, que les pasteurs ne participent pas à la guerre comme tout le monde. Et donc, au nom du sacerdoce universel, la guerre ne va pas être seulement pour les laïcs, mais pour tous. Et en revanche, il reprend les trois critères de saint Augustin, donc la finalité de la guerre, les moyens de la guerre et l'identité de celui qui déclare la guerre. Et c'est ça qui va l'amener à condamner la guerre des paysans parce qu'elle est d'initiative populaire. C'est la population, oui. Ce sont les paysans. Oui. Donc, c'est pas le troisième critère n'est pas honoré. En revanche, il va justifier la répression de la guerre des paysans puisque là, ce sont les souverains, ce sont les princes qui la décident. Donc, le troisième critère de saint Augustin va être repris par Luther pour justifier la répression de la guerre des paysans. Après, ce que vous dites au sujet des Juifs, ça c'est plutôt le Luther de la vieillesse, le vieux Luther qui, à la fin de sa vie, aura des positions extrêmement extrêmement dures à l'égard des Juifs, parce qu'il espérait que les Juifs se convertissent du fait de la réforme, qu'ils se convertissent au christianisme. Voyant que ce n'est pas le cas, il va avoir des positions clairement antisémites à la fin de sa vie, invitant à brûler les synagogues, donc avec des termes, des expressions extrêmement violentes. C'est le fruit d'un cheminement de Luther qui est tout à fait délétère, effectivement.
D'accord. Et Calvin, alors, Calvin est plus modéré, notamment sur l'histoire du martyr. Il n'exalte pas le martyr en soi. Alors, on n'a pas parlé du martyr selon Luther, je ne sais pas s'il en parle beaucoup, mais Calvin a une position plus nuancée, il me semble. Alors, il se fonde sur des textes sur Romains 13 et puis Hébreux 11. Qui sont pas quand même des textes très convaincants. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, dans Romains, alors je reprends Romains 13, que toute personne. Oui, alors justement, il faut vraiment être soumis aux autorités pour Calvin. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, etc. C'est pourquoi, je vais y arriver, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc, une obéissance assez aveugle encore au souverain. Et donc, en cas de guerre, on obéit ou on résiste?
Oui, alors Calvin n'est pas si différent que cela de Luther, sauf pour la question des Juifs. Hein. Calvin oui. a quand même jamais validé les positions antisémites de Luther. Il a considéré aussi que l'Ancien Testament avait la même valeur de révélation que le Nouveau, en les plaçant sur le même plan. Et donc, voilà, ces dérives de Luther, Calvin ne les emprunte pas. En revanche, sur la question de la guerre juste, Calvin n'est pas très différent de Luther. Hein, il reprend les critères de Saint Augustin et de Saint Thomas d'Aquin. Et par rapport à Romains 13, que vous citez à juste titre, eh bien, Calvin a une position effectivement très loyaliste, on va dire, ou légaliste, en lisant ce texte comme étant une invitation à la soumission aux autorités parce qu'elles viennent de Dieu. Ce n'est pas tellement Calvin, mais à la même époque, ce sont les anabaptistes.
Voilà, c'est ce que j'allais vous poser. Voilà, les anabaptistes qui s'opposent donc au baptême des enfants, mais qui sont aussi extrêmement pacifistes. On l'a vu avec Zwingli en Suisse, quand les anabaptistes refusent de se soumettre aux autorités, eh bien, ils sont pourchassés, voire mis à mort. Et justement, je voulais vous demander donc de nous parler des anabaptistes, donc de ce courant de la réforme radicale.
Voilà, donc c'est un courant qui est même antérieur à Calvin, qui se situe entre Luther et Calvin, hein, 1525, hein, le début de ce qu'on appelle la réforme radicale. Donc Luther, c'est 1517 et Calvin, c'est 1533-34. Donc, en 1525, le mouvement anabaptiste, surtout en Suisse hein, et dans le sud de l'Allemagne, va se développer. Anabaptiste parce que, comme vous le dites, il refuse le baptême des enfants. Et il rebaptise ceux qui ont été baptisés catholiques, mais les anabaptistes ont aussi une position qui est une sorte de, une manière de renouer avec les trois premiers siècles du christianisme du point de vue de la guerre, c'est-à-dire qu'ils sont d'un pacifisme radical, préférant se faire tuer que de tuer par fidélité au Christ, préférant s'exiler, préférant renoncer à leur bien, préférant être pourchassé, persécuté. D'une certaine manière, c'est la fidélité qui l'emporte sur l'efficacité. Et pour ce qui concerne la justification de ce retour en quelque sorte aux trois premiers siècles du christianisme, on trouve dans la confession de foi de Schleitheim en 1527, donc c'est la première confession de foi des anabaptistes en 1527, tout un argumentaire qui relie les textes bibliques d'un point de vue pacifiste. Et pour ce qui concerne Romains 13, eh bien, il y a une relecture de Romains 13 qui n'est pas du tout celle de Calvin. Il ne s'agit pas d'être dans la soumission aveugle aux autorités, il s'agit de n'être soumis aux autorités que lorsque elles-mêmes sont soumises à Dieu. Et donc, il s'agit d'être soumis à Dieu. Il y a des paroles dans les livres des Actes, hein, notamment de l'apôtre Pierre, qui dit « il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Actes 4, 19 et 5, 29, ces deux versets sont mis en regard de Romains 13 pour essayer d'éclairer Romains 13. Donc, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Lorsque les hommes obéissent à Dieu, on obéit aux autorités. Lorsque les autorités n'obéissent pas à Dieu, on est tenu de désobéir aux autorités. D'autant que Romains 13, c'est pas tout Romains 13, c'est seulement Romains 13, 1 à 7. Mais vous avez la suite de Romains 13 à partir de verset 8. Et vous avez Romains 12, qui dit tout à fait autre chose. Enfin, qui dit qu'il importe de vaincre le mal par le bien et de donner à manger à ceux qui nous persécutent. Et donc, en quelque sorte, Romains 13, 1 à 7, du point de vue des anabaptistes, se trouve pris en sandwich entre Romains 12 et Romains 13, 8 à 14. Il y a une sorte d'inclusion de ce texte qu'on a peut-être surinterprété, mais si on le remet dans le contexte de Romains 12 et de la suite de Romains 13, eh bien, on peut comprendre aux yeux des anabaptistes que la soumission aveugle n'est pas de rigueur, d'autant même que dans Romains 13, 1 à 7, il est question de la conscience. Il s'agit d'être obéissant par motif de conscience. Et donc, si la conscience qui est attachée à Dieu en priorité, si la conscience nous invite à résister ou à désobéir, eh bien, il s'agit de désobéir. Ça, c'est la position de la réforme radicale, donc des anabaptistes, qui sera d'ailleurs non seulement condamnée, mais combattue hein, par Luther comme par Calvin, par les luthériens comme par les réformés.
Alors, vous parlez de résister. Alors, évidemment, on pense à la guerre des Cévennes et on pense à Marie Durand. Ce terme de résister, donc gravé sur la margelle du puits de la tour de Constance où elle était en prison pendant plus de 50 ans, je crois, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que quand on écoute, je m'amusais à écouter la Cévenole, les paroles de la Cévenole. Alors, on dit, il y a ceux qui résistent comme des lions. Donc, on les glorifie. Et puis, il y a ceux qui sont sublimes, qui meurent sans résister, sans avoir pris les armes. Est-ce que dans la guerre des Cévennes, par exemple, dans les autres mouvements de ce type, s'il y en a eu ailleurs, il y en a eu ailleurs dans le monde entier, est-ce que la résistance impliquait la guerre, les armes, ou alors la résistance de Marie Durand, qui se laisse emprisonner sans prendre les armes? C'est dire qu'elle n'a pas trop les moyens.
Alors, on a les deux courants. Hein. On a un courant, effectivement, armé, que celui qu'on connaît le mieux, parce qu'il est plus spectaculaire, certainement. Hein. Donc, une résistance armée qui consiste à ne pas se laisser impressionner par le rapport de force défavorable. Hein. C'est, évidemment, prendre les armes, c'est prendre le risque de prendre les mêmes, de se passer sur le même terrain que l'adversaire et donc d'être écrasé par les armes de l'adversaire. Mais il y a aussi un courant, de résistance spirituelle, qui consiste à rester fidèlement attaché à Dieu et dans la prière et dans la vie spirituelle, rester fidèle, c'est déjà important de ne pas abjurer sa foi, mais pas forcément prendre les armes, simplement se laisser persécuter, se laisser emprisonner et rester dans la persévérance, dans la communion avec le Christ. Il y a même quelques expressions d'une non-violence au sens où on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire d'une démonstration sans armes de protestation et donc de résistance non armée. Hein, donc
on va en parler d'aujourd'hui. On va faire une pause musicale. Vous nous avez choisi Joachim Desprez, je sais pas comment on dit, Desprez.
Josquin des Prés.
Ah, Josquin. Bon, mais c'est pas bon ce que j'ai noté. Ben, dites-le ce que vous avez choisi, ça sera plus simple.
Bon, ben, Josquin des Prés est un compositeur du 15e et début du 16e siècle. Donc, nous sommes à la période de la Réforme. Et c'est une musique uniquement par la voix, il n'y a pas d'instrument. Bon, il a aussi écrit des morceaux pour instruments, et c'est une musique extrêmement douce, de plainte, de deuil. Donc, nous sommes quand même dans notre texte, hein, dans notre thème, pardon, de deuil et de lamentation.
Alors, on écoute cette musique et on se retrouve ensuite. Cette pause musicale qui nous a mis vraiment dans l'ambiance, je voudrais qu'on termine, il nous reste 7-8 minutes, sur actuellement, donc on n'a pas beaucoup de temps pour dire tout ce qui se fait, mais ce qui m'intéresserait d'avoir des renseignements, c'est sur votre colloque. Vous avez fait un colloque qui s'appelle « Dire la guerre, penser la paix ». Alors, est-ce que vous pouvez développer ce que ça veut dire que de dire la guerre, penser la paix? Je ne vais pas vous demander de résumer tous les actes du colloque en 7-8 minutes, même pas 5 minutes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire?
Ben, c'est un colloque qui a voulu à la fois aborder les questions de guerre et de mutation de la guerre aujourd'hui, parce que la guerre a changé de visage, c'est plus du tout la guerre d'autrefois, c'est même plus du tout les guerres du XXe siècle. On a des nouvelles formes de guerre aujourd'hui, avec des mutations technologiques, mais aussi des manières de faire la guerre différentes. Donc, on a voulu inviter des spécialistes de l'art militaire aujourd'hui, mais aussi d'interroger les possibilités de faire la paix et de penser la paix. Et pour cela, on a donc réfléchi à ce qu'on a dit tout à l'heure, les critères de guerre juste, est-ce qu'ils tiennent encore aujourd'hui? En sachant que l'Église catholique au Concile Vatican II a introduit deux nouveaux critères pour la guerre juste, qui est le dernier recours, on fait la guerre en dernier recours, et le moindre mal, on fait la guerre quand ne pas faire la guerre serait encore pire. Donc on a travaillé tous ces critères, essayer de voir si ça tient aujourd'hui, et dans des débats contradictoires, certains défendaient l'idée qu'on peut aujourd'hui, en ajoutant ces 5 critères, et à condition, encore une fois, que les 5 critères soient honorés simultanément, on peut dégager un discernement sur des guerres justes et des guerres injustes. Et d'autres, plus pacifistes, défendant plutôt une approche non violente, essayant de déconstruire chacun de ces critères pour montrer que la guerre doit toujours être refusée, qu'elle n'est jamais juste, parce qu'il n'y a rien de pire que la guerre. Donc, c'est pas le moindre mal, il n'y a pas le moindre mal par rapport à quoi. Et puis, dernier recours, parce qu'on n'a jamais tout essayé pour empêcher la guerre. Donc, on ne peut jamais dire que c'est le dernier recours. Voilà, donc, on a travaillé pendant 3 jours et on a publié les actes de ce colloque. C'était vraiment un colloque passionnant sur les conflits d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce qu'on peut surtout faire face à la situation internationale particulièrement préoccupante aujourd'hui?
Alors, les limites de notre émission ne permettent pas d'aller plus loin, malheureusement, et d'évoquer des termes plus philosophiques comme la non-puissance, mais on en reparlera peut-être si on fait une émission sur Jacques Ellul, dont on vient de publier le dernier, enfin, un ouvrage, et qui parle de la non-puissance comme opposé à la puissance ou à l'impuissance, mais ce sera un autre débat. Alors, je remercie également les auditeurs que nous retrouverons la semaine prochaine. Merci beaucoup, donc, Frédéric Rognon, de votre contribution et peut-être à une prochaine fois. Merci.
Au revoir.
Thème et anathème. Une émission proposée par Yolande Gounel.